Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau numéro du Zoom de l'Info. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur une classe d'actifs en particulier, le bureau. Après un premier semestre marqué par plus 11% d'investissement en immobilier d'entreprise, donc France entière, les bureaux restent la première classe d'actifs avec plus de 2,4 milliards d'euros investis. On va faire un focus sur le marché du bureau en Île-de-France, Paris et puis la Grande Couronne. Et pour cela, je reçois Olivier Ambrosiali. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate. Et donc vous vous occupez, alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous vous occupez vraiment de la branche transaction, hein.
Alors oui, effectivement, on a dans mon pôle, puisque moi je m'occupe du pôle vente bureau Île-de-France, dans lequel vous retrouvez les équipes investissement, les équipes vente utilisateurs en bureau, et puis depuis 5 ans maintenant, on a créé une nouvelle équipe qui est chargée de reconvertir des immeubles de bureaux anciens ou mal localisés pour en faire autre chose que du bureau, alors plutôt du résidentiel ou de la résidence gérée aujourd'hui.
Alors avant de se focaliser vraiment sur Paris et Île-de-France, un petit mot sur peut-être une mise en contexte. C'est vrai que, bon, est-ce qu'on peut dire que le bureau est une classe d'actifs qui est en train de se stabiliser ?
Alors oui, on a connu une année 2024 un peu particulière où les classes d'actifs logistiques et activités ont dépassé en volume la classe d'actifs bureaux, ce qui n'était jamais arrivé depuis 30 ans dans le marché français. On a une homogénéité qui est plus forte dans les autres pays, je pense à l'Angleterre ou l'Allemagne, où effectivement vous avez une répartition des classes d'actifs beaucoup plus homogène. Mais en France, la classe d'actifs, on a quand même 50 millions de mètres carrés de bureaux, 55 millions en Île-de-France, a toujours été la classe d'actifs en investissement qui était la plus importante. Donc l'année dernière, c'était plutôt une année curieuse. On est en train de revenir effectivement sur un peu plus de normalité en termes d'investissement en bureaux, et particulièrement en Île-de-France, puisque vous le citiez, on est à plus 11% sur le marché de l'investissement en globalité, toute classe d'actifs commerciales confondues. On est à plus 35% en bureaux, région et Île-de-France. Et on est même quasiment à plus 100% par rapport à l'année dernière en bureaux Île-de-France.
C'est quand même assez significatif. Hein. C'est un bon rebond, en tout cas.
Alors, je préférais le terme que vous avez évoqué tout à l'heure de regain.
Ouais.
On reste quand même en dessous des 50% quand on regarde la moyenne à 10 ans.
Ouais.
En moyenne, on était autour avant de 13 milliards. Avant le Covid, surtout. Hein. Effectivement, en particulier. Ouais. On était depuis 10 ans, vous regardez les chiffres, on est à peu près à 13 milliards en moyenne en volume investissement bureau Île-de-France. Là, on est à 100%, mais par rapport à des chiffres en 2024 qui étaient vraiment très faibles. Donc, effectivement, on parle plutôt de regain que de véritable rebond pour le moment.
Alors, on va parler dans quelques instants aussi des fameux mètres carrés vacants, hein, parce que ça, c'est un gros sujet aussi. Juste avant, une petite précision donc, sur le taux de rendement prime dans le quartier central des affaires. Il est autour de 3,9%, hein, c'est ça ?
Alors, le taux de rendement, vous le dites prime, nous, on le dit prime.
Prime, pas, oui.
Mais il n'y a pas de
souci. C'est pour nos auditeurs, en fait, j'ai l'habitude de tout franciser.
Exactement, vous avez bien raison. On est effectivement à 3,90. On a baissé un peu comme la BCE, petit à petit, on était à 4,25 il y a à peu près 6 mois et on a baissé et aujourd'hui on est à 3,90 qui est un taux par rapport à l'OAT qu'on considère aujourd'hui comme relativement stable pendant un moment. Quand on regarde les taux prime sur les autres, mais on parlera du marché et du focus sur Paris, aujourd'hui on est à un taux prime sur le hors QCA qui est autour de 5% et les autres classes d'actifs et les autres secteurs géographiques, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. On est plutôt dans une stabilité, voire une progression de ces chiffres. C'est plus un manque sur ces territoires de liquidité que de réelles contractions.
Alors justement, quels sont les marchés ou sous-marchés qui sont très attractifs ? Donc il y a Paris Intramuros.
Alors, il y a effectivement, je vous coupe, Paris Intramuros qui représente encore, même si on parlait de la défense tout à l'heure, tous les deux, un certain volume au premier semestre, mais Paris... c'est 60% du volume, effectivement. Si on n'avait pas la transaction, effectivement, Trinity à l'extérieur de Paris, on serait quasiment à 80% dans Paris.
Oui, donc ça, c'est une grosse, pour nos auditeurs, c'est une énorme transaction qui vient fausser.
Une transaction, 350 millions, effectivement, à la défense.
Qui vient fausser un peu, on va dire, les chiffres.
Même si on est content de voir autre chose que du Paris. Mais aujourd'hui, la plupart des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, se concentrent sur Paris. Parce que le marché locatif, on en parlait aussi, un marché locatif est encore focusé sur Paris.
Et est redevenu focusé sur Paris, non ?
Il a été focusé sur Paris depuis maintenant 2 ans.
Ouais.
avec les fêtes et les travails, les gens ont voulu revenir dans Paris pour récupérer des bons collaborateurs, pour garder les talents, en réduisant leur surface et en leur permettant, même si on gardait le même budget locatif, mais de reprendre des surfaces qu'ils considéraient comme mieux localisées et avec des fondamentaux plus agréables, des services. Donc il y a beaucoup de 50% du marché locatif était positionné dans Paris, ce qui a induit aussi les investisseurs qui étaient beaucoup plus intéressés pour revenir dans Paris.
Donc maintenant, si je vous écoute, donc c'est plus petit, mieux centré et avec des services.
Alors effectivement, depuis 2 ans, c'était plus petit, mieux centré pour le marché locatif et pour le marché de l'investissement aussi. On a vu effectivement que les années précédentes, le focus était pour la plupart des investisseurs parce que la collecte était très forte. Ils voulaient acheter des opérations de très grande taille et 70% du volume était fait sur des opérations de plus de 100 millions. Depuis 2 ans, c'est l'inverse.
Ouais.
C'est 70%, 80% des opérations étaient faites sur des opérations de moins de 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens avaient beaucoup de bureaux dans leur patrimoine et voulaient aller plutôt sur de l'alternative, du résidentiel, de l'activité, de la logistique, de l'hôtellerie. Donc on voyait bien que le risque bureau était accepté à partir du moment où les actifs étaient de plus petite taille. Ce qui est en train de changer.
Alors justement, on a parlé de Paris intramuros, périphérie, bon, vous l'avez dit, hein, c'est...
La périphérie, il faut 2 phénomènes. Un, on a perdu la plupart des investisseurs qui regardaient des opérations en périphérie. La périphérie a beaucoup fonctionné grâce aux SCPI. Les principales SCPI aujourd'hui, malheureusement, sont plutôt en décollecte qu'en collecte. Donc elles n'ont pas la capacité d'aller...
Même aujourd'hui, en 2025
Ouais. Il y a une stabilité des choses, mais ce sont des investisseurs qui ont beaucoup de bureaux aussi dans leur patrimoine. Donc quand elles ont de la collecte, c'est pour la réinvestir vers d'autres classes d'actifs, de la santé, de la résidence gérée, de l'activité, ou même aller investir dans d'autres pays que la France.
Oui, ça marche beaucoup ça.
Et puis le deuxième moteur sur la liquidité en périphérie, c'était les assureurs-vie. Les assureurs-vie, depuis 4-5 ans, avaient beaucoup investi dans les unités de compte, puisque l'euro ne rapportait plus rien. Et ces unités de compte, elles sont composées d'actions, un peu d'obligations et pas mal d'immobilier. Comme il y a eu beaucoup de collectes, puisque c'était à peu près le seul segment financier qui rapportait encore de l'argent puisqu'il y avait du rendement, elles ont acheté beaucoup de bureaux sur de la périphérie avec des taux de rendement qui petit à petit s'amoindrissaient. Et aujourd'hui, l'unité de compte, ou en tout cas, ces investisseurs sont plus du tout présents sur ces marchés. Donc l'Île-de-France ne fonctionne que dans Paris, parce qu'aujourd'hui, à l'extérieur de Paris, on n'a quasiment pas de liquidité. C'est même plus une question de prix.
Ça se vend plus, quoi.
C'est qu'une question de... On n'a plus d'offres, on n'a plus de clients en face.
Il n'y a plus de demande, quoi.
Il n'y a plus de demande.
Est-ce qu'on peut dire donc que les investisseurs se sont beaucoup plus sélectifs aujourd'hui ?
Alors, ils l'étaient de toute façon en fonction de leur profil de risque. Les assureurs allaient plutôt sur des actifs qui étaient très sécurisés. Ouais. On garde effectivement cette sélectivité. Mais aujourd'hui, c'est une sélectivité... je dirais de localisation, puisque 80% des investisseurs, quand ils vous demandent effectivement et que vous interrogent, vous disent « moi je veux être dans Paris » et principalement dans Paris QCR.
Donc entre 2 immeubles, c'est vraiment la localisation qui fait la différence.
Aujourd'hui, c'est... Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez le profil de risque, soit l'immobilier core, loué, sécurisé, soit il est core plus avec un petit défaut, de la vacance locative, des capex, etc. Ou soit il est value-add. Pour toutes ces trois profils de risque, eux veulent rester dans Paris. Effectivement, aujourd'hui, je vous le disais, 60, 70, 80% dans Paris QCA, et on a du mal à acquérir les profils corps sur un Paris hors QCA pour le moment. Même si aujourd'hui, on considère, et ce sera un peu le message que je vais passer, il y a de très belles affaires à faire, à la fois sur un Paris hors QCA et en première couronne.
Alors, vous n'avez pas mentionné l'ESG ?
Alors, quand vous discutez, moi je participe au GRI chaque année, et je me suis rendu compte cette année, alors l'ESG, c'est très prégnant chez les banquiers, c'est très prégnant bien évidemment chez les investisseurs, mais vous vous rendez compte aujourd'hui qu'ils sont capables, même si on coche pas toutes les cases en ESG, alors ça dépend le profil d'investisseurs, les family office seront peut-être moins sensibles, les assureurs le sont beaucoup plus parce qu'ils ont effectivement des obligations à remplir, les SCPI dans la même, avec effectivement toutes les règles ISR à cocher, mais on se rend compte que pour les fonds d'investissement, à partir du moment où vous avez de la labellisation et la capacité de faire évoluer cet immeuble, ils sont capables aujourd'hui d'accepter des deals avec une ESG moins prégnante qu'elle ne l'était il y a encore quelques années.
Il n'y a pas de décote dans ces cas-là ?
Alors, il n'y a pas de décote, non, puisqu'aujourd'hui, tout le monde se bat sur les mêmes immeubles et les value-add en particulier, sur une capacité de faire évoluer ces immeubles, de faire des travaux, de les faire... Bien évidemment, le décret tertiaire est très prégnant dans la tête des investisseurs, 2030, 2040, 2050, c'est quand même un peu moins le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un curseur qui est retombé un tout petit peu par rapport à la localisation de votre immeuble. Bien évidemment, les gens souhaitent pouvoir faire évoluer cet immeuble s'ils le revendent, si ce sont des investisseurs opportunistes, parce que l'objectif, c'est d'acheter cet immeuble dans de bonnes conditions, de le restructurer, de le rénover, de le relouer, de le revendre, à des gens qui, demain, seront quand même très sensibles à cet aspect environnemental. À l'acquisition, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un tout petit peu moins le cas. Mais, pour les acheteurs finaux, puisque ce qui est important aujourd'hui pour les value-add ou les opportunistes, c'est de savoir à qui demain ils revendront cet actif.
Bien sûr.
Et les gens qui rachèteront ces actifs sont des gens qui sont plutôt avec un profil core, et les cores sont eux beaucoup plus sensibles à l'aspect ESG de cet immeuble.
Bien sûr, ouais. J'aimerais qu'on reparle du marché locatif. On l'a dit, hein, en intramuros, il y a quand même une tension. On peut dire qu'il y a une tension locative sur...
Alors, il y a une tension locative qui est en train d'un tout petit peu d'évoluer. Je vous le disais, depuis maintenant 2 ans, 50% des transactions se sont traitées dans Paris. C'est la raison pour laquelle, depuis, je crois, 4 ans, les loyers ont progressé de 37 ou 40% dans Paris. On a des loyers locatifs aujourd'hui dans Paris qu'on n'a jamais connus. Moi, je suis un peu plus vieux dans le marché et j'avoue que j'ai jamais connu effectivement ce type de valeur.
Mais c'est anormal selon vous?
Non, c'est le fait d'avoir une demande qui était forte.
Bah oui. Et une offre qui est petite, forcément.
Une offre qui était plutôt petite. Ouais. Donc, effectivement, on a eu cette situation. On va connaître peut-être une petite différence dans les 2 années qui viennent. Premièrement, on voit bien qu'il y a quelques moteurs locatifs qui s'essoufflent. Le premier à s'être essoufflé après le Covid, ça a été le coworking, qui était quand même un des plus gros utilisateurs de bureaux dans Paris.
Donc ça, on voit qu'on
continue effectivement à avoir un peu de demande sur le coworking, mais il y a quand même effectivement un ralentissement.
Et ça, c'est quoi? C'est des changements d'habitude de travail?
Je pense qu'il y a des gens qui ont pris beaucoup de surface très rapidement et qui ont eu des taux d'absorption ou de remplissage qui n'étaient pas forcément ceux qu'ils attendaient. Donc il y a eu des gens qui ont quitté certains actifs, etc. Le deuxième moteur, c'est le luxe, qui a quand même contribué aussi à prendre beaucoup de surface dans Paris QCA et même un peu hors QCA. Donc ça a été aussi un moteur qui fait que eux choisissaient les meilleurs immeubles, qui fait que les valeurs ont progressé. Et puis le troisième moteur, qui est un tout petit peu défaillant encore aujourd'hui, c'est tout ce qui est PropTech. Où aujourd'hui, on a bien vu que ces utilisateurs profitaient des levées de capitaux qui sont quand même un peu plus compliquées aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, ce moteur aussi de la tech, il est un tout petit peu défaillant. Donc, quand vous réunissez ces trois moteurs qui étaient principalement des gens qui louaient dans Paris, on voit aujourd'hui que la plupart des grands utilisateurs ou des utilisateurs, même s'il reste quand même les petites et les moyennes surfaces, mais on voit que le plus de 5000 est en train de regarder beaucoup plus à l'extérieur de Paris, les meilleurs immeubles en première couronne, on voit ce qui se passe aussi à la Défense, que dans Paris. Donc il y a aussi, et j'espère qu'en investissement, les choses vont se décoincer grâce à ça, c'est qu'on a maintenant 34% des transactions qui se font dans Paris, c'était 50% pendant 2 ans. Donc on voit qu'il y a une évolution de la plupart des utilisateurs aujourd'hui qui sont plus les trois moteurs évoqués tout à l'heure, l'industriel, les services, qui regardent les très bons immeubles, mais à l'extérieur de Paris, où il y a quand même un écart significatif, quand vous êtes à la Défense ou quand vous êtes en première couronne à des loyers entre 500 et 600 euros pour des immeubles de très grande qualité, et que vous êtes parfois entre 1000 et 1200 dans Paris. Donc, pour votre RNAI ou pour votre bilan, il y a des gens qui se disent « je préfère être à 3 stations de Saint-Lazare à l'extérieur de Paris que de louer à 1000 ou 1200 euros dans Paris ». Après, il y a toujours des utilisateurs, les banques d'affaires, les conseils, les avocats, qui resteront toujours dans Paris. Et on restera toujours à un niveau de taux de vacances dans Paris, même dans le QCA, qui restera quand même relativement faible par rapport à la demande. Donc on va rester sur des valeurs élevées, sur les très bons actifs, mais on peut connaître aussi ce qu'on avait peut-être moins vu l'année précédente, parce qu'il y avait tellement de demandes, une certaine nouvelle hiérarchie des valeurs locatives dans Paris. On ne louera plus tous les immeubles à 1000 euros du mètre dans Paris. Mais on va garder quand même pour les grades A des loyers entre 1000 et 1200, voire peut-être plus. Mais on va retrouver pour les immeubles qui ont moins de services, moins de rooftop, des valeurs locatives peut-être un peu plus raisonnables que celles qu'on a pu connaître.
Donc il y aura vraiment des micro-marchés en fait dans
Paris. En fait, on va avoir une nouvelle hiérarchie, quelque chose de plus logique.
Ouais.
C'était comme l'investissement il y a quelques années où tout le monde achetait un immeuble à 4%, alors que les fondamentaux de l'immeuble n'étaient pas forcément les mêmes pour un immeuble prime, et vous achetez du core à 4% et le prime était à 3 ou même à moins, mais il y avait plus tellement de règles ou de hiérarchie dans les valeurs.
Vous avez évoqué la défense, votre avis sur ce quartier
Alors, on a vu la transaction Trinity en ce début d'année, et Norges est rentré sur cette opération autour de 80% parce qu'il a considéré que c'était un des meilleurs actifs de la défense et qu'il considérait rentrer sur cet actif à une bonne valeur. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a sur ce marché, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les grandes transactions. Alors dans Paris, on voit le retour des très grandes transactions. Nous, on a signé hier avec Gecina et Deka la vente de Solstice pour 450 millions d'euros. Donc on voit ce qui se passe sur Paris Trocadéro. On voit effectivement des investisseurs revenir sur de grandes transactions dans Paris. Pour attirer ces grandes transactions, aujourd'hui, on a du mal à voir, effectivement, on n'a pas beaucoup de visibilité sur cette liquidité sur des grands actifs en dehors de Paris. Et la défense est composée quand même de très grands dossiers, de très grandes opérations, 25 000, 30, 40 000, 70 000 mètres carrés, où on a du mal encore à identifier quel pourrait être l'investisseur, il sera certainement international, on l'a vu avec les Coréens à une époque, qui pourrait revenir sur des actifs qui font 200, 300, 500 millions, 800 millions d'euros sur la défense. Donc il y a encore un peu de dichotomie entre la demande exprimée, qui est capable d'acheter de grands immeubles, mais dans Paris, et pour retrouver cette liquidité, je pense qu'il va falloir effectivement attendre encore un peu.
On va parler des taux maintenant, de l'impact des taux et du financement. Hein. C'est vrai que les conditions de financement influencent toujours les deals. Qu'est-ce que vous observez là justement concernant les opérations de bureau par rapport aux taux qui ont baissé?
Alors, on est maintenant, je pense, à la 8e ou 10e baisse de taux, ouais. Même si effectivement la BCE...
9e, je crois.
Ou 9e, ouais. Peut-être. Donc la 10e n'aura pas lieu et on reste sur un taux qui est stable à 2%. Peut-être qu'on aura une petite baisse des taux. Là, il y a encore un débat entre les économistes. Est-ce qu'en septembre, la BCE va baisser ses taux? Ce qu'on voit, en tout cas, l'impact que l'on a eu, et maintenant l'impact qu'on a eu depuis 6-8 mois, c'est qu'on voit effectivement les banques de nouveau vouloir réinvestir dans de l'immobilier de bureau.
Ouais.
Moi, je vous le disais tout à l'heure, au GRI, on a interrogé les banques. Elles veulent toutes, et en particulier les banques allemandes, mais les banques françaises aussi, réinvestir dans le bureau, mais très très sélectif. Aujourd'hui, elles accompagnent beaucoup plus des opérations dans Paris qu'à l'extérieur. C'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui de financer des opérations à l'extérieur de Paris. Donc les banquiers reviennent sur du bureau. Il y a même, j'étais avec un banquier ce matin, sur une opération qui fait quasiment 300 millions, la capacité d'aller chercher sur du core 60 voire 70% de levier sur une opération sécurisée, avec des taux de marge au-dessus de l'Euribor, autour de 180-200, avec de la bagarre. Donc on voit effectivement, et c'est la raison pour laquelle les value-add reviennent aussi un peu massivement, c'est qu'il y a beaucoup plus de détente sur la partie financement. Mais toujours beaucoup de sélectivité sur la localisation.
Oui, forcément, les value-add sont davantage présents. Question sur la suite de l'année. Là, on a beaucoup parlé du premier semestre. Comment vous voyez l'évolution? Bon, vous l'avez dit. Alors, concernant les taux, oui, certains misent sur à nouveau une petite baisse, là, sur une stabilisation qui se poursuit.
Moi, je suis plutôt...
Ça devrait, selon le gouverneur...
La stabilité des taux, en tout cas dans Paris QCA, puisque... On le voit très clairement depuis maintenant, depuis le fait que la BCE a stoppé son quantitative easing.
Ouais.
On voit que l'OAT, elle fluctue entre 3,20, 3,30, 3,40. Ce qui fait que effectivement la prime de risque sur Paris s'est quand même considérablement réduite. Mais n'oublions pas que la période qu'on a vécue entre 2013 et 2022 avec une OAT en moyenne à 0,80, voire une OAT négative, c'était une situation qui était inhabituelle. C'était presque une anomalie de marché. Aujourd'hui, on revient sur une situation beaucoup plus... ce qu'on a vécu les années précédentes, où on avait un spread entre l'OAT et le taux prime qui était de l'ordre de 75 points. Aujourd'hui, on est un tout petit peu... On est autour de 70 points. Donc, on revient à une prime de risque plutôt saine, normale. Mais on considère aujourd'hui que le taux va avoir du mal à baisser. Et surtout, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la valeur locative des immeubles a considérablement évolué, surtout pour les très bons immeubles, où aujourd'hui, on voit qu'on a vendu des opérations, il y a 3 ans, je pense à la place de Rio, à 32 000 euros du mètre, qui était la valeur prime. Aujourd'hui, on est plutôt entre 25 et 26 de valeur prime, considérant que acheter un immeuble à 1 000 euros avec un bail de 9 ans, bah, avant de voir un loyer progresser en dehors de l'indexation qui s'est quand même considérablement réduite puisque l'inflation est autour de 2%, l'indexation, on a connu des indexations à 5-6%, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc la progression de vos loyers et votre loyer va être beaucoup plus lente, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont un focus sur le taux de rendement, mais beaucoup sur la valeur vénale. Et aujourd'hui, je considère que une valeur vénale autour de 25-26 000 pour un actif de 100 millions, on va avoir du mal à franchir la barre de ce 26-26 000.
Donc vous êtes, au final, les signaux pour vous sont plutôt verts ou
Alors les signaux pour moi, depuis maintenant le quatrième trimestre 2024, on a vu le regain d'intérêt pour le bureau. Les vendeurs l'ont parfaitement compris. Pour la même époque l'année dernière, on était autour de 3,5 milliards d'opérations sous marketing. Cette année, on est à 6,5 milliards. Donc on voit qu'aujourd'hui, le volume d'investissement au bureau en Île-de-France sur la fin de l'année, on considère qu'il sera plutôt autour de 6 milliards. On était à 3,5 milliards. Donc c'est quand même une progression qui est sensible. Même si toujours, ça reste assez focus sur Paris et j'espère demain focus beaucoup plus Paris, Orcusea et Première Couronne. Mais tant qu'on restera sur cet environnement très parisien, on va rester sur des volumes qui resteront effectivement de l'ordre de 6-7 milliards. Il faut vraiment qu'on retrouve de la liquidité sur les marchés à l'extérieur, mais les vendeurs ont compris qu'il y avait une volonté. Il y a deux points qui me semblent importants. On avait fait une étude de marché, comme chaque année, fin 2023, pour savoir ce que les gens voulaient investir en bureau en Île-de-France, et on avait sur 80 investisseurs, et les gens nous avaient dit « j'ai 2 milliards à investir en 2024 ». On a fait le même exercice fin 2024 pour 2025 et on avait trois fois plus d'argent à se positionner sur du bureau.
Et puis, si je Donc on voit vraiment un regain d'intérêt pour cette classe d'actifs.
Les Américains, et quand on regarde ce qui s'est passé sur Paris Trocadéro, même si c'est une opération sur laquelle nous n'avons pas travaillé, les quatre finalistes sur cette opération, sur les quatre finalistes, vous avez trois investisseurs américains. Il y a 3 ans ou 4 ans, les Américains nous disaient « je ne reviendrai plus faire du bureau dans Paris ». Depuis, ils ont considéré que l'Europe et la France ne fonctionnaient pas en termes de télétravail comme ce qui se passait aux États-Unis. Et on voit qu'un Blackstone, on voit qu'un Tishman, on voit qu'un Heinz et un Norges avec Generali ont tous les trois été finalistes sur la Paris Trocadéro. Et sur ces trois, vous avez trois investisseurs américains. Donc, à partir du moment où vous présentez une bonne opportunité à un investisseur, bah, il est capable de réviser sa copie.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Ambrosiali, pour cette interview. Et je vous souhaite de bonnes vacances aussi.
Merci.
Nous, on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro du Zoom de l'Info sur Radio Immo. Bonnes vacances.
Radio Immo, le Zoom de l'Info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.